Info matin, Nicolas Legrand.
Notre passé ne doit pas devenir l'avenir de nos enfants. C'est le message des survivants des camps de concentration nazis. Des cérémonies de commémoration ont eu lieu la nuit dernière pour marquer les 80 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Nous ne devons plus rien laisser passer. Les mots de Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription, dépose une proposition de résolution européenne. Elle vise à condamner fermement les ingérences répétées de l'Azerbaïdjan sur le territoire. Nous allons passer ce soir dans l'année du serpent de bois. Les communautés asiatiques du territoire se retrouveront pour célébrer le tête autour des plats traditionnels. Tradition et savoir-faire culinaire aussi dans ce journal avec le Bocuse d'Or. La France est championne du monde de cuisine. On y revient dans cette édition. Le sport et on connaît l'affiche du Super Bowl le 9 février prochain. Les Kansas City Chiefs, ultra dominateurs du foot américain des dernières années, affronteront les Philadelphia Eagles comme en 2023. La météo sur le territoire, des nuages se développent sur le relief, ils donnent des averses qui débordent sur la pointe nord et le nord-ouest. Aux loyautés, des averses se forment sous le vent des îles, ailleurs le soleil domine. L'alizé de sud-est se renforce avec des rafales jusqu'à 30 nœuds. Quant aux températures maximales, elles amorcent une légère baisse sur la pointe sud et l'île des Pins jusqu'à 28 degrés. Et sur les autres régions, elles seront comprises entre 29 et 33 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
À la une des cérémonies du souvenir de l'Holocauste.
Oui, il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, les Alliés libéraient le camp de concentration nazi d'Auschwitz-Birkenau. Place aujourd'hui aux commémorations pour ne pas oublier. À cette occasion, plus d'une centaine de délégations venues du monde entier, dont des chefs d'État et de gouvernement, ont fait le déplacement à Auschwitz, Léana Colombo.
Oui, et parmi les invités, le roi d'Angleterre Charles III, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre canadien Justin Trudeau et bien entendu Emmanuel Macron. Tous les invités ont déposé une bougie, symbole du recueillement, pour rendre hommage aux 1,1 million de victimes mortes à Auschwitz. Durant la cérémonie, des rescapés ont pris la parole et ont mis en garde contre une résurgence de l'antisémitisme. Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial, a notamment tenu un discours très sombre. Écoutez.
Il y a 10 ans, en 2015, Roman Kent, un survivant d'Auschwitz, était ici même lors du 70e anniversaire de la libération du camp. Il a prononcé ces paroles. Nous ne voulons pas que notre passé soit l'avenir de nos enfants. Je répéterai cette phrase, nous ne voulons pas que notre passé devienne le futur de nos enfants. Il est assez difficile de croire ce que nous voyons aujourd'hui, cette éruption de haine, de violence contre les Juifs. C'est bien dur à voir. Je ne peux imaginer ce que qu'éprouvent les 50 et quelques survivants du camp ici.
D'anciens détenus accompagnés par le président polonais Andrzej Duda ont déposé des fleurs devant le mur de la mort de ce camp où étaient fusillés les détenus.
Et des cérémonies d'hommage se sont tenues partout dans le monde, comme à Paris, au mémorial de la Shoah. Des rescapés ont pris part à ces commémorations pour transmettre leur histoire aux jeunes afin que l'humanité n'oublie pas l'horreur des camps de concentration.
Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai eu une chance énorme. Si moi je ne viens pas, qui va venir? Malheureusement, dans les écoles, la Shoah, on en parle de moins en moins.
C'est extraordinaire, beaucoup, beaucoup de jeunesse. Et c'est la première fois que je vois une manifestation où il y a tellement de jeunesse. Ils sont concernés, c'est formidable. J'en vois qui pleurent, ça me fait mal. Il faut se souvenir pour que la vie continue. Le passé va être l'avenir. L'avenir doit se souvenir du passé.
Le Premier ministre François Bayrou a quant à lui ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Alors la cérémonie à Auschwitz s'est déroulée sans Donald Trump, le président des États-Unis ou encore son homologue russe Vladimir Poutine et surtout sans Benjamin Netanyahou, toujours sous le camp d'un mandat d'arrêt international. Le Premier ministre israélien qui est aussi très occupé par la libération des otages toujours retenus à Gaza. 26 d'entre eux doivent encore être relâchés au cours des prochaines semaines en vertu de l'accord de cessez-le-feu. Mais le Hamas vient de confirmer que 8 personnes présentes sur cette liste sont décédées, Frédéric Simon.
Le chiffre correspondait aux estimations des agences de renseignement israéliennes et il est confirmé par le Hamas. Parmi les 26 otages qui n'ont pas encore été libérés et qui devraient l'être au cours de la période de 42 jours de cessez-le-feu qui a débuté il y a un peu plus d'une semaine maintenant, 8 sont morts en captivité. L'organisation islamiste n'a pas donné de nom, mais l'armée israélienne a prévenu les proches de ceux des otages dont le sort suscite le plus d'inquiétude. Le porte-parole de Tsahal a fait part publiquement des vives préoccupations de l'armée concernant les plus jeunes des captifs, les frères Kfir et Ariel Bibas, âgés respectivement de 2 et 5 ans seulement, et leur mère Chéri. L'inquiétude est vive également, étant donné ce que l'on sait des conditions de détention des captifs sur la situation des otages les plus âgés, 3 hommes de plus de 80 ans. Mais la prudence s'impose, aucune indication n'ayant été communiquée par les autorités sur l'état de santé de ces 3 hommes. En outre, parmi les otages libérables au cours des prochaines semaines, certains avaient été grièvement blessés au cours de l'assaut terroriste du 7 octobre 2023. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.
Il est 6h passé de 37 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Après la pause publicitaire, on reviendra sur cette proposition de résolution européenne pour lutter contre les ingérences de Bakou en Nouvelle-Calédonie. Proposition déposée par le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en Nouvelle-Calédonie est tout d'abord la Chambre territoriale des comptes qui vient de publier le rapport sur la situation des finances locales. Il s'agit de l'exercice 2023, mais aussi concernant les 6 premiers mois de l'année 2024, Jean-François Bodin.
Une année 2023 qui avait confirmé dans ses premiers mois la reprise de l'activité économique. Les choses se sont ensuite dégradées en raison des incertitudes sur l'usine du Nord et l'avenir institutionnel, note la Chambre territoriale des comptes. En 2023, l'État a également poursuivi ses transferts financiers, notamment en bouclant la 5e génération des contrats de développement. La 6e génération qui est lancée verra entre 2024 et 2027 un engagement moyen de l'État de 10 milliards de francs par an. Autre indicateur qui concerne les collectivités et qui confirme que l'économie a ralenti en 2023. En fin d'année, le niveau de trésorerie des collectivités était en moyenne de 51 jours alors qu'il était de 79 jours en début d'année. Pour le gouvernement, ce niveau est même tombé à 13 jours. Cette réduction de la trésorerie a contraint les collectivités à allonger leurs délais de paiement, ce qui pénalise évidemment leurs fournisseurs, mais impacte aussi les comptes des régimes de protection sociale. Ce rapport est disponible sur le site de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et il se conclut par ce constat d'une intense dégradation depuis le 13 mai dernier. Les charges réelles de fonctionnement des provinces ont ainsi augmenté de 2% entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2024, alors que leurs recettes de fonctionnement ont baissé de 44%. Pour les communes, sur la même période, leurs charges réelles de fonctionnement ont diminué de 10%, alors que leurs recettes ont reculé de 41%.
Merci Jean-François Bodin. Dans le reste de l'actualité, je le disais, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, a donc déposé une proposition de résolution européenne visant à condamner fermement les ingérences de l'Azerbaïdjan dans les affaires politiques de la Nouvelle-Calédonie et par extension de la France. Nicolas Metzdorf rappelle que des enquêtes ont révélé des actes de déstabilisation orchestrés par le régime azerbaïdjanais. Je cite son communiqué publié ce matin. « Ces ingérences confirmées par des rapports officiels ont notamment pris la forme de soutien à des mouvements indépendantistes, de diffusion de désinformation et d'organisation de congrès visant à saper l'intégrité de la République française. » Nicolas Metzdorf poursuit en affirmant que la récente tenue en Nouvelle-Calédonie du congrès constitutif du Front international de décolonisation soutenu par le régime de Bakou a confirmé la persistance de ces stratégies d'influence qui menacent directement la stabilité sociale et politique des territoires ultramarins. Cette résolution déposée par Nicolas Metzdorf et Gabriel Attal sera examinée dans les prochaines semaines en commission des affaires européennes. Elle a reçu le soutien de l'ensemble du groupe présidentiel à l'Assemblée nationale. Nicolas Metzdorf qui indique par ailleurs qu'il s'entretiendra dans les prochains jours avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il lui proposera notamment de convoquer l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France, de rappeler l'ambassadrice française en Azerbaïdjan et d'envisager la suspension ou le gel des accords bilatéraux.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, tout d'abord. 96% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la France doit prendre des sanctions économiques contre l'Azerbaïdjan. ils ne sont que 4% à penser le contraire. Voici maintenant notre question du jour. Les conditions sont-elles réunies selon vous pour une réouverture permanente de la RP1 à Saint-Louis au 1er février ? Si vous pensez que les conditions sont réunies, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Vos rendez-vous sur RRB au sujet de l'Azerbaïdjan. Sébastien Vandendijk, spécialiste de géopolitique et directeur de cabinet de la présidente de la province sud, qui sera ce matin notre invité à 7h30. Nous reviendrons avec lui sur la création à Nouméa du Front international de décolonisation, mais aussi sur l'ingérence de l'Azerbaïdjan et sur ses tentatives de déstabilisation au travers du groupe Initiative Bakou. Bastien Vandendijk, invité du matin, c'est à suivre tout à l'heure à 7h30 sur Radio Rythme Bleu.
RRB, il est 6h41.
En bref, la brigade de gendarmerie de la Foy lance un appel à témoins à la suite d'un accident mortel survenu samedi dernier aux alentours de 14h30 sur la RT1 entre Bouraille et Moindou. Un automobiliste s'est déporté sur la file de gauche et a percuté la voiture arrivant en face. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années au volant de la voiture qui s'était déporté est décédé sur le coup. Les enquêteurs recherchent toute personne ayant été témoin de l'accident ou disposant d'informations pouvant les aider à faire avancer l'enquête. Les personnes concernées doivent appeler la brigade de gendarmerie de la Foy au 44 87 50, le 44 87 50. Dans l'actualité, toujours aujourd'hui, une vigilance jaune de forte pluie était lancée le week-end dernier sur le territoire. Pourtant, certains Calédoniens n'ont pas vu une goutte tomber et ils ont pu s'agacer des prévisions météo qui ne correspondent pas toujours à leur réalité. Et nous avons fait le point sur ce sujet avec Météo France, Léana Colombo.
Oui, les prévisions météorologiques ne sont pas toujours exactes, on le sait bien. Et pourtant, cela reste contrariant lorsque finalement il ne pleut pas. Pourtant, les prévisions ne sont pas erronées, mais simplement très localisées. Les météorologues basent en effet leurs prévisions sur plusieurs données observées, celles des pluviomètres, des thermomètres ou encore de la mesure du vent. C'est justement l'étude de ces facteurs qui a permis aux prévisionnistes d'annoncer ce week-end l'apparition de cumulonimbus sur le territoire. Des nuages souvent synonymes de pluie et d'orage. Mais comme nous l'explique Christophe Point-Dumont, climatologue à Météo France, leur apparition peut être très éphémère. C'était le cas samedi et dimanche.
Ces cumulonimbus, ils ont une durée de vie qui est assez courte, de l'ordre de la demi-heure à quelques heures en termes de formation, de précipitation, d'orage et ensuite de déclinaison. Il est difficile d'appréhender avec précision à quel endroit exactement va se former un cumulonimbus, quelle quantité d'eau il va précipiter. Ça va dépendre de l'environnement, de la topographie. Et donc, nous, ce qu'on est capable de mesurer et de prévoir, c'est la vaste zone qui va engendrer ce phénomène de fleurissement des cumulus et des cumulonimbus. Et à partir de là, en fonction des prévisions et de l'expertise des prévisionnistes, on va émettre des vigilances qui vont être de l'ordre de la vigilance rouge, orange ou jaune. Donc des phénomènes météorologiques, ils ne sont pas tous prévisibles de manière égale. Et les orages, leur formation, leur durée de vie, étant donné qu'elle est courte, rapide, sont des phénomènes qui sont parmi les plus difficiles à appréhender.
Un phénomène localisé alors que les prévisions météo sont données à l'échelle communale. Seulement, les communes en Nouvelle-Calédonie sont parfois très étendues avec des parties en bord de mer ou des parties plus montagneuses. Si la prévision affiche alors de fortes pluies sur une surface donnée, en réalité, la quantité d'eau qui tombe peut diverger d'un point à l'autre.
Je vais vous donner un exemple sur ce qu'on a mesuré ce week-end, ce qu'on a enregistré. La commune de Bouraille, qui comme toutes les communes de Calédonie était en vigilance jaune forte pluie orage ce week-end, on a 4 pluviomètres sur cette commune, il y en a 3 qui ont donné des données. À Poué, on a eu en une heure 60 mm de pluie. Donc c'est une pluie très intense à Poué. Le pluviomètre de Nessadio, lui, toujours sur la commune de Bouraille, son maximum dans le week-end en une heure n'a été que de 33 mm. Et on a un troisième pluviomètre, toujours sur la commune de Bouraille, qui lui, en une heure, n'a enregistré au maximum que 9 mm. Et ces trois pluviomètres ne sont pas éloignés les uns des autres de plus de 40 kilomètres. Donc c'est vraiment pour pointer du doigt le caractère très localisé, ponctuel d'une averse orageuse.
Les météorologues ont relevé plus de 10 mm de pluie sur quasiment tout le territoire ce week-end. Certaines zones ont été plus touchées, comme sur La Foy, Yaté, Poé ou Lifou, où plus de 50 mm d'eau sont tombées, tandis que la Pointe Nord et le Grand Nouméa ont été épargnés.
Et puis, je le disais en titre, les communautés asiatiques du territoire en fête ce soir. C'est en effet le nouvel an chinois ou fête du tête, Léana.
La communauté vietnamienne organise effectivement une soirée dansante à l'amicale vietnamienne. À minuit, la danse de la licorne et l'explosion de 1000 pétards permettront de chasser les mauvais esprits. Quant à la communauté chinoise, ses membres se retrouveront dans un restaurant autour de plats traditionnels. Ces moments de partage sont importants, mais le nouvel an est avant tout une fête familiale, nous a dit Michel Fong, le président de la communauté. La communauté chinoise en Calédonie était dans notre journal hier soir.
Traditionnellement, lorsque les Asiatiques fêtent le jour de l'an, c'est une fête familiale à l'origine. Aujourd'hui, les familles sont dispersées à travers le monde. C'est l'occasion où toute la famille se réunit. En fait, vous savez que chez les Asiatiques, l'entité, c'est le clan, c'est la famille. Et donc, lorsqu'il y a le nouvel an, on se retrouve. En fait, toute la famille se réunit. En fait, on se ressource en famille pour redémarrer l'année. Mais ce n'est pas à l'origine, on ne fêtait pas la veille. En fait, je pense que la plupart des Asiatiques qui vivent en dehors de l'Asie, nous avons adopté, je dirais, les traditions occidentales. Par exemple, on fête l'arrivée du Nouvel An, la Saint-Sylvestre. Du coup, les Asiatiques à l'étranger, ben, nous le fêtons également la veille. Mais traditionnellement, c'est une fête familiale.
Dans le journal hier soir, Michel Fong était avec Patrick Guillon, le président de l'amicale vietnamienne. Cette année, la fête du tête arrive dans un contexte difficile. C'est l'occasion de penser à l'avenir, nous a-t-il dit.
Toute une nouvelle année, une saison de renouveau. Donc le tête est une saison où nous portons nos espérances pour l'année à venir. Et même si nous traversons une année assez difficile, même si nous traversons des moments difficiles pendant cette période, nous nous tournons vers l'avenir.
Dans la tradition asiatique, l'entrée dans la nouvelle année correspond aussi à un changement de signe de l'astrologie chinoise. Après le dragon de bois, la nouvelle année sera placée sous le signe du serpent de bois. On retrouve Michel Fong.
C'est un bon signe. En fait, vous savez que le meilleur signe chez les Chinois, c'est le dragon. Mais le serpent, en fait, ressemble au dragon, mais en plus petit. Vous connaissez tous le serpent. C'est surtout un animal qui est, dans la mythologie chinoise, quelqu'un qui est diplomate, qui est plein de tact, avec beaucoup de facultés d'adaptation et un sens de responsabilité. Je pense que si nous avons parmi nos élus beaucoup de serpents, peut-être que nous allons trouver une bonne solution pour l'ensemble des habitants du pays.
Les festivités du nouvel an sino-vietnamien durent plusieurs jours. Elles se refermeront le 23 février par la journée des anciens, qui sont toujours les invités d'honneur.
Et on termine avec un rendez-vous sur notre antenne à l'occasion de la nuit de la lecture. Ce sera jeudi, le magazine Citoyen sera ce midi consacré à la littérature. C'est un événement qui est relayé sur le territoire par la bibliothèque Bernheim qui vous invite à lire ou déclamer des textes de votre choix à voix haute autour du thème « Les patrimoines ». Ce sera donc jeudi de 18h à 20h. Pour en parler notamment, nous recevrons Solange Payandi, la directrice de la bibliothèque Bernheim, l'auteur et éditeur Yannick Jean, ainsi qu'un représentant du service médiation culturelle et patrimoniale de la ville de Nouméa. L'occasion de revenir aussi sur la place du livre en Nouvelle-Calédonie. Il est 6h49, vous écoutez RRB, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en métropole.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La rentrée, c'est chez MPC. Du 23 janvier au 16 février, faites le plein de bonnes affaires. Papeterie stylée, literie de rêve, bricolage malin, télé et multimédia au top. Et de l'électro ultra performant. Chez Nouméa pas cher, des nouveautés et des surprises à prix imbattable. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 16 février seulement. Nouméa pas cher.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et Bruno Retailleau qui s'exprime tout d'abord sur l'ultra-violence chez les mineurs. Invité d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'affaire du jeune Elias, 14 ans, agressé et tué par deux mineurs qui voulaient lui voler son téléphone. Écoutez la réaction de Bruno Retailleau.
Il faut que ça change, dans la mesure où ceux qui ont fait ça, celui qui a fait ça, a déjà été condamné pratiquement pour la même chose, pour un vol avec violence. Il n'a pas fait une seule journée de prison. Il y a en France une sorte de droit au premier tabassage. C'est-à-dire qu'on considère que finalement, la prison, ce n'est pas bien pour les mineurs. Et on les laisse s'enfermer dans des parcours de plus en plus violents. C'est-à-dire que comme on ne les sanctionne pas dès le premier écart, eh bien, on attend une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et c'est en dernière extrémité que la sanction tombe. Donc, ce n'est plus possible.
Et pendant ce temps, l'enquête se poursuit pour déterminer les rôles des deux suspects âgés de 16 et 17 ans, Léana Colombo.
Et l'un des suspects est passé aux aveux ce matin pour nous. Après avoir nié son implication, le plus vieux des deux a finalement avoué avoir porté le coup de couteau au niveau de la clavicule de la victime. Quant à l'autre mis en cause, il admet avoir été présent au moment de l'agression. Les deux individus étaient déjà connus des services de police et avaient interdiction de se voir. Ils ont été déférés devant le parquet de Paris cette nuit pour nous en vue de leur mise en examen. Une enquête pour extorsion suivie de mort est en cours. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
À Radio Rythme Bleu, 6h51.
Alors, on a parlé de la météo sur le territoire un peu plus tôt dans ce journal. Voyons maintenant le pic des crues dans l'ouest. Les intempéries continuent, notamment en Bretagne, avec le passage de la tempête Herminia. De nombreuses maisons ont été évacuées. Reportage à Pont-Réan, dans le sud de Rennes, où toute la journée, les secouristes ont monté des parpaings et mis les habitants à l'abri grâce à de petites embarcations. Reportage signé Sandrine Prioul pour Europe 1.
Eh bien, vous l'entendez, ici, c'est du non-stop, ou presque, depuis maintenant 4 jours. Vent, pluie, rafale, grêlons. Alors, les paysages que vous traversez dans tout le bassin rennais ne sont que d'immenses étendues d'eau. Et ça va encore monter. Je vous explique cet élu muni d'un drone pour regarder l'ampleur des dégâts de son école.
Les écoles sont fermées, là. Il y a ça d'eau, 50 cm d'eau. Et on nous annonce encore une hausse dans la nuit. Et c'est très inquiétant et ils n'arrivent pas à prévoir. Hier, toute la journée, tout ce que nous a annoncé Vigicru, on était toujours 25-30 cm au-dessus de ce qu'ils annonçaient. Et là, on sait que cette nuit, on peut se prendre entre 30 et 40 cm de plus dans la nuit à venir.
Ici, la vilaine arrive de toutes parts et les habitants ont été nombreux à évacuer les lieux. Mais pour combien de temps?
Ben là, il y a 5-7 cm. On pense qu'il va y en avoir au moins 30. Hier soir, il n'y avait rien.
Ouais, je vais me faufiler. Si vous réussissez à le lever, je vais glisser. Attendez, comment ça va?
Bonjour.
On fait comme on peut, hein. On a appliqué ce que la mairie nous a dit. En voyant que ça a remonté, la mairie nous a rappelé. On est revenu surélever les choses un peu essentielles, quoi. Pour pouvoir avoir quelque chose quand on revient. Et puis bah, maintenant, on attend que la nature se calme.
Les Bretons, encore sidérés, font le dos rond. Et il faudra bel et bien beaucoup de patience avant une décrue.
Sandrine Prioul pour Europe 1. Et enfin, la France qui remporte le Bocuse d'Or 2025. Ce championnat de la gastronomie était organisé cette année près de Lyon. À l'issue d'une longue journée de mijotage et de tractation des jurés, c'est le Français Paul Marcon qui est le grand vainqueur de cette édition. Il succède ainsi à son père, Régis Marcon, qui avait été sacré 30 ans plus tôt. Paul Marcon, très heureux d'avoir remporté la statuette. Écoutez.
Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion. C'est la récompense d'un travail de 2 ans et de même plus. C'est toute l'expérience de vie, de carrière, de cuisinier qui paye aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de choses en place. On s'est heurté à des choses. On a fait des erreurs. On est remonté, on s'est relevé. Et aujourd'hui, on est là. Forcément, on représente la France. Et j'espère qu'on fait briller les yeux de tous les cuisiniers et de tous les cuisiniers en devenir de France.
Et l'équipe de France qui l'a emporté face à 23 autres pays, c'est le 9e Bocuse d'Or remporté par la France. Elle avait remporté la précieuse statuette pour la dernière fois en 2021. Il est 6h55, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Rentrée des classes, on a tous un peu la tête ailleurs et le budget pas au meilleur de sa forme. Alors imaginez, cette année, jusqu'au 16 février, Gémeaux vous propose un t-shirt ou un débardeur pour 10 francs. En effet, pour l'achat d'un short ou d'un bermuda en 4-12 ans, le t-shirt ou le débardeur est à 10 francs seulement.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Voir conditions en magasin sur article signalé dans la limite des stocks disponibles.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons enfants !
Allons enfants, un rendez-vous instructif et rigolo à 8h15 et 15h50.
Et ouais.
Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord du tennis avec le classement ATP après sa victoire à l'Open d'Australie. Eh bien, l'Italien Yannick Sinner est toujours le numéro 1 mondial. Il devance celui qu'il a battu en finale, l'Allemand Alexander Zverev. Carlos Alcaraz, éliminé en quart de finale par Novak Djokovic, complète le podium. Côté tricolore, maintenant Hugo Humbert qui a glissé d'un rang. Il est 15e et le premier Français au classement. Tandis qu'Arthur Fils, qui gagne deux places, réintègre le top 20. Il est actuellement 19e. Gaël Monfils, lui, qui s'est hissé en 8e de finale à Melbourne, pointe aux portes du top 30. Puisqu'il est actuellement 32e. Et puis du tennis, toujours avec les joueurs du circuit français qui sont à Montpellier pour un ATP 250. On signalera la victoire en 2-7 d'Arthur Cazot face au Suisse Stan Wawrinka, 6-4, 6-3. Et puis en ce moment, Grégoire Barrère est opposé à Dominique Kupfer. Tennis encore avec Maxime Chazal qui accède lui au tableau principal après sa victoire aux qualifications du Challenger de Piracicaba. C'est au Brésil et ça se passe sur terre battue. Cette nuit pour nous, le Calédonien a battu l'Argentin Kestelboim en 2-7. Au premier tour, il était sorti gagnant de son match contre le local, Roveri Sidney, en 2-7 également. Il rejoint donc son compatriote Gabriel Debru, déjà qualifié pour les 16e de finale. Pour le moment, on ne connaît pas le prochain adversaire de Maxime Chazal. Du football américain également dans l'actualité sportive ce matin, et on connaît désormais l'affiche du Super Bowl de cette année. Les Kansas City Chiefs, victorieux des Buffalo Bills hier pour nous, viseront une nouvelle victoire lors du Super Bowl le 9 février à la Nouvelle-Orléans. Ils affronteront les Philadelphia Eagles comme en 2023. Kansas City qui continue sa série folle en atteignant son 5e Super Bowl lors des 6 dernières saisons. Après un titre en 2020 face aux San Francisco 49ers, puis une défaite en 2021 contre les Tampa Bay Buccaneers, ils avaient dominé les Eagles en 2023, puis les 49ers l'an passé. Un triplé serait donc une première dans l'histoire du championnat de football américain NFL.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin sur l'ouest, le temps sera sec de belle époque nord-est et sur le nord des loyautés de faibles averses circuleront. Ailleurs, le soleil prendra le dessus. Le vent, lui, pour ce matin, orienté est-sud-est entre 10 et 15 nœuds. Il fraîchira rapidement en cours de matinée entre 15 et 20 nœuds et temporairement sur le nord-ouest autour des 10 nœuds. Cet après-midi, des nuages se développant sur le relief. Ils donneront des averses qui déborderont vers la pointe nord et le nord-ouest. Aux loyautés, des averses se formeront sous le vent des îles. Ailleurs, le soleil dominera. L'Alizée pour cet après-midi, midi orienté sud-est entre 15 et 20 nœuds, donc il se renforce sur l'ouest et le sud-ouest entre 20 et 25 nœuds et des rafales proches des 30 nœuds. Les températures maximales amorcent une légère baisse sur la pointe sud et l'île des Pins jusqu'à 28 degrés. Sur les autres régions, elles seront comprises entre 29 et 33 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.